Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin. Bonjour Gilbert Bouchard.
Bonjour.
De votre biographie, nous retiendrons que vous êtes né à Lyon, mais que vous avez passé votre enfance et votre jeunesse à Saint-Priest. Vous avez fait des études supérieures d'histoire, ce qui ne vous a pas empêché de vous passionner pour le sport. En tant que supporter, vous étiez un fervent de l'équipe de Nantes, les Canaries, et vous avez pratiqué vous-même l'athlétisme jusqu'à décrocher une quatrième place au championnat de France junior sur 400 mètres. On vous connaît comme auteur de BD, tout particulièrement de BD ayant pour thème l'histoire de notre région. Vous avez été pour d'autres dessinateurs également scénariste. Vous avez créé et animé un festival de BD. Vous avez toujours pratiqué le théâtre et vous avez même écrit pour cet art. Vous avez tourné dans plusieurs films de court-métrage et vous vous lancez maintenant dans une web-série. Votre premier album, La Chapelle du Démon, sorti en 81, est déjà publié par l'éditeur grenoblois Glénat. En 87 et 88, deux volumes dans les séries Histoire d'un département, un titre sur la Savoie, un autre sur la Haute-Savoie. En 1989, Histoire d'une ville, Lyon. De 2002 à 2004, vous consacrez 5 tomes à l'histoire de l'Isère en BD.
En 1994, suite à la sortie de votre premier album humoristique Tapas en balle, que vous auto-éditez, vous êtes engagé par le journal de Spirou comme scénariste. Depuis 1999, vous travaillez également pour le journal de Mickey, où vous racontez les aventures du petit-déj. Cette collaboration va se poursuivre avec bonheur dans le magazine Bleu Blanc Foot, où vous racontez les baby-foot, puis vous publiez les aventures de Croco et Fast Food pour les éditions Casterman. Vous n'abandonnez pas pour autant l'histoire. En 2000 est édité chez Glénat Une histoire des rues de Lyon. Plus tard, en 2006, vous proposerez chez le même éditeur Une histoire des rues de Grenoble. La même année, rédaction d'un ouvrage pédagogique, La bande dessinée c'est facile, qui a été réédité en 2016. En 2009, avec Jacques Martin et la collaboration de Benoît Elie, archéologue, vous publiez un volume de la collection Les voyages d'Alix, qui raconte le voyage du jeune Romain à Vienne. Dans la même collection suivront Massalia, Marseille, en 2013, puis Luc Dunhomme, Lyon, en 2014. En 2011, les éditeurs de la revue Archéo Junior font appel à vous pour une brève histoire de Romulus et Rémus et vous poursuivrez l'aventure de cette rubrique pour le magazine Histoire Junior. Votre dernier ouvrage, publié en 2017 chez Glénat, s'intitule « Ce diable les déguerres » qui raconte l'un des épisodes les plus sanglants de notre histoire que furent les guerres de religion.
Commençons, si vous voulez bien, par les prémices de l'histoire. Tout petit, vous êtes au CP, vous recevez en cadeau deux livres, un recueil de 1000 pages du journal de Tintin et l'histoire de France racontée aux enfants. Sur ces deux livres, on peut dire que vous avez construit toute une vie, en tout cas une grande partie.
Ben oui, comme quoi il faut se méfier quand on offre quelque chose à un enfant. On m'aurait offert les Herald Tribune ou le Monde économique, je serais peut-être trader maintenant. D'ailleurs, c'est ce que je dis des fois, j'ai une photo aussi où j'ai mon père qui est en train de lire le journal de Mickey et je dois avoir 6 mois. Il tient le journal de Mickey de la main gauche et moi je suis dans l'autre bras. Alors je dis, c'est pour ça que ça m'a influencé et du coup de travailler pour le journal de Mickey quelques années après, ça devait être écrit.
Chaque année, on va dire... En fin d'année, on ne fait pas grand-chose dans les classes, on attend les vacances. Et alors, vous en profitez à chaque fois pour écrire votre premier magazine. Alors, ça s'appelle Le Bouchardien, et il y aura aussi les aventures de Zéro.
En fait, donc c'est tout est lié à ce qu'on dit recueil du journal Tintin. Quoi. On me l'avait offert, j'étais au CP, j'étais quand même un peu petit. Quoi. Et je l'ai lu au CM2, parce que ce gros bottin, là. Alors c'est pour ça qu'après j'avais mis Bouchardien, parce que ça faisait la connotation Tintin, pour ça que ça finissait par un. Mais comme je faisais tout, voilà. Mais ceci dit, je me suis dit, je vais peut-être le refaire un jour maintenant. Là. Je vais voir un imprimeur, pour me refaire un petit tirage. Comme ça, ça fera un pont avec le passé.
Et que raconter ces histoires ?
Ben, disons que je faisais comme le journal Tintin, là, je m'achetais un cahier de dessin. Donc je vais sauter la couverture du cahier de dessin pour qu'il n'y ait que des feuilles de dessin. Et puis je faisais le Bouchardien numéro 1, alors avec les aventures, comme je disais, il y avait Zéro, le héros masqué. Quoi. Il y avait Guillaume Dantel, c'était une parodie de Guillaume Tell. Donc chaque fois, il y avait la petite histoire. Et puis dans le numéro 2, vous retrouverez vos héros. Je faisais comme dans le journal Tintin. Sauf que le journal Tintin, il paraissait toutes les semaines et moi, j'en faisais un par an. Quoi. Mais voilà, alors après, je faisais en dessin, en couleur. Là, là. Puis après, je faisais lire aux copains de mon cahier. Quartier, là, et puis des fois, j'arrivais à en motiver un petit peu, alors on se réunissait sur la table de la salle à manger, et puis on passait l'après-midi à recopier les couvertures d'Astérix ou de Tintin, ou de choses comme ça. Et parmi eux, il n'y en a aucun qui est devenu dessinateur. Il y en a même un, là, qui s'appelait toujours, là, Michel Narnige, là, qui dessinait bien mieux que moi, là, et bon, il dessinait parce que, comme ça, pour faire quelque chose, mais il n'a jamais continué. Et lui, il est ostéopathe vers Lons-le-Saunier. Donc là, c'est pareil, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, quoi. Mais il se rappelle un peu de moi, quand même, parce que c'est notre jeunesse ensemble. Et une fois, dans son cabinet, il voit une fille qui arrive avec un t-shirt, avec un dessin humoristique sur le t-shirt. Puis comme il regarde en dessous, il y avait ma signature avec mon nom. Quoi. Il dit « Ah, mais je connais le dessinateur !» Comme quoi, les t-shirts se promènent aussi et participent à des liens qu'on croyait un peu rompus avec le passé.
Vos deux premières BD sont deux BD noires. Elles sont toutes deux publiées par Glénat, l'éditeur grenoblois. Donc, et comment vous aviez rencontré cet éditeur ?
Côté pratique, c'était l'éditeur le plus proche. Donc ça, c'est déjà un point. Et puis, donc, surtout avant, j'avais rencontré Lionel Garcia, là, qui avait un an de moins que moi, mais qui, lui, était super fort en dessin, qui avait fait les arts appliqués. Et du coup, avant, je dessinais tout seul dans mon coin mes Zéros et mes Guillaume Dantel, là, pour moi, comme ça. Ça m'amusait. Et puis, de rencontrer ce Lionel Garcia, qui avait une grande base de dessin. Et du coup, après, je dessinais plus pour moi, je dessinais pour lui. C'est-à-dire, je faisais un truc, quand j'aurais fini, je vais aller le voir. Et puis, lui, après, il me corrigeait la main, l'œil, l'oreille. Il y a eu le côté à la fois conseil graphique et à la fois côté motivation qui permettait, du coup, de passer à un autre stade. C'était plus simplement le loisir de fin d'année ou de week-end. C'était en disant, maintenant, j'ai une sorte de Pygmalion, là, je vais lui faire voir. Et donc, à son contact, j'avais fait plus de progrès en 6 mois qu'en 6 ans. Et puis, un jour, il va chez Glénat, là, comme ça, il n'avait jamais vu des éditeur de sa vie. Premier rendez-vous qu'il prend comme ça, il dit, bon, je vais aller faire voir mes pages. Il revient le soir, il dit, j'ai signé un contrat de 4 albums. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose, c'est peut-être faisable, parce qu'avant, c'est comme si on dit, je vais être avant-centre au Real de Madrid. Et puis on se dit toujours, il y a le mythe, je suis en province, j'ai pas de relation, j'ai pas de contact avec le monde de l'édition, et lui, il en avait aucun, et il se retrouve avec 4 albums. Donc ce qui fait qu'il y a une sorte de mythe qui est rompu, en disant, finalement, il y a peut-être quelque chose de possible. Donc ça, c'était en 78, ce qui fait qu'après, chaque fois qu'il allait chez Glénat apporter des pages, j'allais avec lui, et puis je laissais des pages, et puis, comme ça, 80, du coup, dans un premier temps, Glénat m'a dit, ben, si vous voulez faire quelque chose, c'est ou 4 pages ou 44. 4 pages pour être dans Circus ou 44 pour être en album. Alors j'avais commencé par 4 pages. Alors j'ai fait 4 pages. Alors ils avaient une grande réserve de dessins. Alors ils disaient c'était un peu pour boucher les trous dans leur magazine, Circus. Puis comme au bout d'un an, en histoire de 4 pages, j'étais toujours dans le tonneau d'Anaïde là-bas. Alors du coup, j'avais commencé 44 pages. Et quand j'étais à la page 7-8, Glénat m'a dit oh, ben, on va faire un album. Moi j'aurais préféré faire des petites histoires de 4 pages pour se roder un petit peu. Ce qui fait que je suis passé de rien à un album direct. Puis au niveau dessin, il y avait des manques que j'aurais voulu travailler en faisant des histoires courtes avant. Et puis le côté album noir et blanc, il y avait deux choses. C'est que d'une part, il voulait faire un peu un clin d'œil à Gallimard et la série noire. C'est pour ça qu'il y a un cadre jaune, ce qui lui a valu un procès d'ailleurs, parce que pour plagiat. Et puis, il y a peut-être le côté pratique. Une bande dessinée noir et blanc coûte moins cher à imprimer qu'une page en couleur. C'est-à-dire que moi, j'avais fait une histoire pour la couleur. Alors après, il n'y avait pas de couleur pour mettre dans cette collection. Et puis après, vous étiez estampillé. Ah oui, vous êtes un spécialiste du noir et blanc. Je dis non, c'est pas un spécialiste du noir et blanc, c'est l'éditeur qui n'a pas mis de couleur. Alors comme il y avait à l'époque la grande vogue Tardy de Lyon, on disait ah oui, vous êtes dans la lignée des Tardy, de votre maître, ainsi de suite. Non, mais c'est qu'ils ne m'ont pas mis de couleur.
Alors, est-ce que c'est votre formation universitaire ? Vous êtes allé à la fac d'histoire de Lyon 2, qui est à l'origine de votre passion pour la recherche historique et par-delà même pour la création des BD historiques?
Je crois pas, non. En plus, ce qui m'a surpris, c'est qu'en histoire, on faisait pas beaucoup d'histoire. Moi, je croyais qu'en histoire, on faisait que de l'histoire, et puis vous arrivez, vous faites un peu de géographie, un peu de sport, un peu d'anglais, un peu de technique d'analyse. J'étais un petit peu déçu à ce niveau-là. Puis bon, l'avantage, c'était à Lyon 2, à Paris, comme j'ai de l'athlétisme aussi, comme ça, après, je pouvais aller m'entraîner dans le parc de Paris, c'était pratique aussi.
Parlez-nous un peu de cet amour pour le sport aussi.
Le sport et le dessin, je pense, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que pour les personnes qui sont un petit peu timides, un peu introverties, qui ont du mal à parler, à sortir de chez eux, donc vous cherchez un moyen qui puisse vous intéresser et en même temps attirer le regard de l'autre. Et puis bon, le sport, j'étais pas mauvais en sport aussi, c'est le seul truc où j'étais pas trop mauvais. Donc ce qui fait que quand j'étais en classe, j'attendais le cours de gym, parce qu'avant, maths, physique, anglais, machin, j'étais toujours un peu à l'arrière de la charrette. Donc quand vous êtes toujours un peu dans les choux, quand le sport arrive et que c'est vous qui mettez le plus de paniers ou le plus de buts, ça vous réconforte un peu. Moi, c'est vrai que j'avais fait avant du basket, du foot, ce qui était plus agréable que l'athlétisme, mais après, bon, j'ai aucun résultat en sport collectif, on dépendait toujours des décisions de l'entraîneur ou de je ne sais quoi, là, ou de la passe du collègue, qui n'arrive jamais. Alors qu'en athlétisme, bon, même si vous n'êtes pas bon, le dimanche, vous savez que vous êtes sur la ligne de départ et que vous faites votre course. Alors qu'en sport collectif, vous poireautez tout le dimanche matin sur la ligne de touche du match de basket. Oh non, on a que 10 points d'avance, on ne te fait pas rentrer parce que ça va nous faire perdre notre avance. On vous met en confiance. Puis donc après, avec l'athlétisme, ça s'est enchaîné. Et puis j'ai trouvé que c'était, au niveau atmosphère et ambiance, bien plus intéressant. Des fois, les gens ils disent « Ah, oh, mais l'athlétisme, c'est un sport individuel. Moi, je suis pour le sport co. » Et je me suis aperçu qu'en fait, c'était tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que l'athlétisme est beaucoup plus collectif que les soi-disant sport co. Parce que dans le sport collectif, vous faites du basket, du foot ou quoi que ce soit, vous ratez le ballon, vous avez tout le monde qui vous engueule. Les partenaires, les machins, ou alors « Pourquoi tu m'as pas fait une passe ?» Alors ça, c'est sport collectif. On est tous pour le collectif. Alors qu'en fait, les ambiances sont assez délétères. Alors que dans l'athlétisme, certes, vous courez tout seul. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est que du coup, vous avez tous les copains de votre club et des autres clubs qui viennent et qui vous encouragent quand c'est votre tour. Alors, après, quand c'est quelqu'un, une autre discipline, sauteur en hauteur, on fait l'appareil, on va l'encourager. Donc les gens passaient leur temps à vous encourager, même quand vous êtes du club adverse, parce que justement, comme il y a le côté plus individuel que côté couleur de maillot, il y a plus de solidarité. Alors imaginez un match de foot où les joueurs de l'OL vont à Saint-Étienne encourager les joueurs de foot de Saint-Étienne sur la touche. Ça paraît très bizarre, alors qu'en athlétisme, nos collègues de Saint-Étienne, quand ils faisaient une compète, on se retrouvait au championnat de France. Donc, au championnat de France, on était tous de la région lyonnaise, donc on s'encourageait en tant que région. Je me rappelle une fois, justement, quand j'avais fait quatrième au championnat de France, là, et avant le 400 plat, il y a le 400 haies. Et à l'époque, c'était Patrick Chazot, des Stéphanois, là, au Coquelicot de Saint-Étienne. Il gagnait tous les titres chaque fois, il s'échauffait avant, et du coup, on était contents qu'il gagne. Alors d'ailleurs, pour faire le lien avec les baby-foot là, dont on parlait, qui est un album sur le foot. Moi, je suis né à Lyon, parce que j'étais de Saint-Priest, mais il n'y a pas de maternité. Et le dessinateur des baby-foot est stéphanois. Alors, c'est marrant, parce qu'au dos de l'album, c'est toujours le dessinateur qui prime. On s'en fiche du scénariste. Comme un chanteur, un acteur, on l'invite à la télé, on n'invite jamais le parolier ou le dialoguiste du film. Et alors, ce qui fait que l'éditeur, il ne sait plus à dire « Oui, c'est un livre sur le foot, dessiné par le Stéphanois Pica. » Et j'aurais bien aimé qu'ils mettent « Et par le scénariste, le Lyonnais, machin. » Ça aurait été marrant de voir un album avec un dessinateur stéphanois et le scénariste lyonnais. Voilà, c'est pareil. Mon dessinateur, lui, stéphanois, bon, il suit un peu le foot comme ça. Et une fois, il y avait quelqu'un, il dit, oulala, moi je suis Lyon, je suis supporter de Lyon, oulala, comment il faut pas que je lui en parle parce qu'il va se vexer. Je lui dis, il en a rien à foutre, il nous gonfle, les Lyonnais, ils ont une image parce que l'autre il est stéphanois, il s'imagine qu'il va me lancer des canettes quand j'écris un scénario pour lui.
Alors vous racontez que votre première BD historique a été en fait publiée par un éditeur très particulier puisqu'il s'agissait du bulletin municipal de Saint-Priest alors que vous étiez encore en faculté d'histoire, et que du coup, vous avez disposé comme ça de 30 000 lecteurs potentiels. C'est pas mal pour un démarrage.
Je sais pas si l'histoire, s'il y avait...
J'ai dit potentiel.
Les 30 000 habitants, parce qu'il y en avait qui avaient peut-être un petit peu petits, si on compte les nouveaux-nés. voilà, bah oui, je m'étais dit, comme j'habite Saint-Priest, une bande dessinée, je dis dans le revue municipal, c'est l'idéal. Parce que le but, chaque fois, c'est de trouver un lecteur. Tandis que là, c'est votre histoire qui va directement dans toutes les boîtes aux lettres des lecteurs. Ce qui est rigolo aussi, c'est que le maire de l'époque, c'est Louis Giraud, qui était maire de Saint-Priest. Et en fait, bon, je l'avais perdu de vue, puis je l'ai retrouvé à Villefontaine, parce qu'il travaillait à la mairie de Villefontaine là, quelques années après au service communication. Et là, du coup, par mail, on ne se quitte plus. Quoi. À chaque fois que j'y envoie un dessin, il me répond. Là. C'est marrant, parce que bon, à l'époque, j'avais pas beaucoup d'affinité avec le maire de Saint-Priest. Et là, même l'autre fois, il était venu avec ses petits-enfants là, faire des casser des albums.
Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased at life as if it were a foolish game, the way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned, I always built, alas, on weak and shifting sand. I lived by night and shunned the naked light of day, and only now I see other years ran away. Yesterday, when I was young, so many drinking songs were waiting to be sung. So many wayward pleasures lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time, and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about. And every conversation I can now recall concerned itself with me and nothing else at all. Yesterday, the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were one, and never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit quickly died. The friends I made all seemed somehow to drift away, and only I am left on stage to end the play. There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay yesterday, when I was young, when I was young.
Alors, d'une ville à une autre, on va parler de Lyon, puisqu'en 85, vous publiez l'histoire des rues de Lyon. En 86, l'histoire de Chambéry, votre première BD en couleur, avec elle vous rencontrez au salon d'Angoulême Jacques Martin. Et alors c'est le début d'une collaboration suivie qui donnera lieu notamment au voyage d'Alix à Vienne.
Suivi, oui, mais il y a un grand, une grande parenthèse entre les deux.
C'est pas grave, racontez-nous un petit peu tout ça.
Oui, comme ça, ça fait un raccourci, parce que 86, on a encore pour 30 ans l'histoire à raconter. Si on voulait dans les détails, bon, à Lyon Matin, une fois j'étais allé, le rédacteur en chef dit, une bande dessinée, pourquoi pas, mais il faudrait qu'il y ait différents paramètres, il faudrait que ce soit en noir et blanc, c'est un journal noir et blanc, le quotidien, c'était Lyon Matin, oui. Un strip, parce qu'on ne veut pas que ça prenne trop de place. Un strip qui n'a pas de suite, parce qu'on ne sait pas avec la pub, et l'information, l'actualité, ce qu'il y aura demain, et quelque chose sur Lyon. Alors comme à l'époque, comme tout est lié, quand j'étais en fac, j'allais pour faire mon mémoire de maîtrise d'histoire, il fallait que j'aille aux archives départementales monter les Carmes des Chaussées, celui de la gare Saint-Paul. Là-bas. Alors chaque fois, je regardais cette plaque, monter des Carmes des Chaussées. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors c'est pour ça que jour Lyon Matin m'a dit ça. Alors, du coup, je suis allé chercher dans un livre, j'ai pris la montée des Carmes des Chaussées, j'ai fait une petite explication à quatre cases et puis ils me disent ah oui, ça leur plaisait. Et puis finalement, on en a publié 110. Donc après, je m'étais édité un petit ouvrage de quelques exemplaires avec un imprimeur local. Là, je les avais apportés à Chambéry. Et puis en étant à Chambéry, j'avais rencontré, ce ressemble, la Caisse d'épargne de Chambéry qui voulait faire un gros truc pour les 10 ans de Chambéry. J'ai dit, parmi vos gros trucs, vous ne pouvez pas faire un album sur l'histoire de Chambéry en bande dessinée, parce qu'ils voulaient faire un livre qu'ils ont fait d'ailleurs avec Dargo sur la bande dessinée en général. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette histoire de Chambéry en couleur. C'est pour ça que j'ai dit des fois aux jeunes dessinateurs, chaque fois que vous faites un truc, c'est le maillon, il faut essayer accroché au maillon suivant. Yvan Delporte, le rédacteur en chef de Spirou, quand j'avais fait voir mon premier album, il m'a dit « C'est la première marche de l'escalier que vous devrez emprunter plus tard. » Alors j'ai dit chaque fois, si vous avez une marche, après essayez d'en faire une seconde. Qui fait qu'après, à Chambéry, j'ai mon premier livre en couleur, j'étais content. Au salon d'Angoulême, je vois Jacques Martin derrière un petit stand. Comme je savais déjà à l'époque que Jacques Martin, il avait des collaborateurs pour faire d'autres titres, alors moi j'étais parti dans mon fantasme, je lui ai donné mon album d'histoire de Chambéry en bande dessinée, en plus il y a un peu de romain au début, j'imaginais déjà en train de prendre l'album, en disant « Ah oui, très bien, vous voulez pas collaborer avec moi, machin et tout », j'étais déjà prêt à ça, et du coup je lui ai donné mon album, il m'a dit « Ah ben merci, continuez, c'est bien ». C'est pas exactement ce que je pensais, et du coup il a fallu après que je le retrouve au salon de la Verpillière 15 ans après, pour que je puisse avoir la suite de la phrase en me disant « Vous voulez pas faire un voyage d'Alix à Luc Dunhom parce que vous habitez à côté de Lyon ?» Donc il y a juste une petite parenthèse de 15 ans entre le dépôt du livre et la réponse. Mais comme ça, elle a au moins eu lieu.
Alors, ces BD historiques que vous avez faits, que vous faites encore, doivent vous demander un énorme travail de recherche, des documents, des archives. Quelle est la part que ce travail prend dans la création d'un nouvel ouvrage? Et comment est-ce que vous vous y prenez pour la recherche?
En fait, c'est la partie qui me plaît le plus, de chercher. Là. C'est une sorte d'enquête. Voilà. Quand vous faites des livres d'histoire, vous avez l'impression d'être un enquêteur à travers les siècles. Vous cherchez des indices, des preuves, des traces. Et c'est aussi des grands moments de panique, parce que vous dites, mais comment je vais faire? Parce que je n'ai rien. Et comment je vais faire pour trouver? Alors que l'éditeur lui dit, vous me faites un voyage d'Alix, vous me faites 15 doubles pages en dessin. Lui pense qu'en dessin. Pour lui, c'est réglé, c'est le dessin. D'ailleurs, c'est souvent même les dessins de presse. Les gens, faites-nous un petit dessin. On peut faire un dessin, je peux faire une tasse à café, une marguerite, quoi que ce soit. Et les gens ne pensent pas à l'idée. Pour eux, c'est quelque chose qui est naturel. L'idée, un scénario, machin. Et puis donc, comme moi, j'aime bien les recherches et faire des choses justes niveau histoire, un petit peu la panique. Comme à un moment, la même année, en étant à Mirieu-les-Étangs, il fallait que je fasse un album pour le centenaire du diocèse de Lille, en bande dessinée, et les voyages d'Alix à Massalia, c'est-à-dire Lille et Marseille en étant à Mérieux et en sortant pas de chez soi. Il y a un grand moment de panique. Surtout que, bon, vous avez rendez-vous, l'éditeur vous permet de vous rendre à Lille, parce que c'était une commande de l'archevêché, donc il y a le responsable des archivistes là, qui vous reçoit. Ah, oui, c'est bien, donc voilà, on va faire un album. Et il vous donne 5-6 photocopies avec 2-3 photos. J'ai dit, oui, c'est pas beaucoup, là. Ah, oh, bah avec ça, vous pouvez faire un album. J'ai dit, pas bien, non? Pas bien. Ah bon? Il vous faut plus de choses? Bah oui, c'est un album, 44 pages, il y a 8 images par page, ça vous fait des moins. Moi, j'ai au moins 300, 320 dessins, même si c'est pas toujours que de la documentation. Ah bon? Parce que les gens se rendent pas compte. Ah, vous faites-nous un album, quoi. Et jusqu'à maintenant, il y a toujours eu un miracle de dernière minute, mais chaque fois, on se dit, c'est le dernier, ça va plus se produire. Par exemple, vous tombez sur une personne dont les ondes correspondent aux vôtres, quoi, entre guillemets, je sais pas comment dire. Et à Lille, un jour, je contactais des gens à gauche, à droite, je reçois des petits trucs, mais ça correspondait pas à ce que je voulais. Et puis une fois, je suis tombé sur, j'ai appelé la secrétaire de l'archevêque, une dame qui était à quelques mois de la retraite. Ah, vous faites... Écoutez, je vais voir, je vous envoie ce que je trouve. Elle m'a envoyé un petit carton avec plein de vieux bouquins et tout. C'était exactement ce qu'il me fallait. Donc, grâce à cette dame, alors que des fois, vous contactez la personne qui est à la gauche de cette dame qui va vous dire « Mais on n'a rien » ou « Je sais pas » ou « Alors, vous envoyez des choses qui n'ont rien à voir » ou « Alors, vous envoyez 56 photos sur la kermesse de l'année dernière alors que vous devez 100 ans d'actualité. » Puis à Marseille, alors Marseille, c'était encore pire. J'avais un jeune Marseillais qui était à l'origine du projet qui m'a dit « T'inquiète pas, je te fournis toute la documentation. » Puis il finit par m'envoyer à peu près 140 photocopies. Alors il dit « C'est bon, avec ça, tu peux faire l'album ?» Et j'ai dit « Non. » Il dit « Comment, ouais, avec tout ce que je t'ai envoyé ?»« Non, non, bah là, c'est bon. » C'est lui, c'était au poids, quoi. Voilà, il avait envoyé 150 photocopies. Alors vous aviez des bouts de texte, vous avez qu'il avait pris je sais pas où, page 22, 23, 24, 29, 32, 35, 37, parce qu'il y a une gravure qui représente trois tuiles romaines, ou je sais pas. Donc même quand vous avez votre texte, vous commencez à lire un petit truc, et puis vous n'avez pas la page suivante. Et puis je lui avais dit aussi, mais Marseille c'est une ville, donc il faut représenter des bâtiments, parce qu'il n'y avait aucun bâtiment dans tout ce qu'il m'avait envoyé, à part un dessin imaginaire, une reconstitution, et en dessous il y avait écrit Beaucaire. Alors je lui ai dit, la seule maison qu'il y a c'est à Beaucaire. C'est pas grave, à l'époque, c'était tout pareil. Donc pour lui, on fait un lotissement, vous trouvez une format de maison, puis vous les mettez comme ça, bout à bout. Alors, on me dit, bon, parce que c'était dans le cadre de Marseille, capitale européenne de la culture. Alors, je dis, ça fait rien, je vais téléphoner au musée d'histoire, un gros musée d'histoire antique à Marseille. Et justement, j'appelle, eh ben, vous dites, ah ben, on profite des subventions, on va doubler la surface du musée. Donc, le musée est fermé pendant un an. Recontactez-nous l'année prochaine. Donc, pas de musée, pas d'infos, pas d'archives, et 150 photocopies avec trois tuiles et une maison de Beaucaire. Déjà que c'est difficile d'avoir un album chez un éditeur, en plus qu'à Serman, et puis il y a les Voyages d'Alix. Et là, c'est la première fois de ma vie, j'avais appelé mon éditeur, j'ai dit, bon, c'était quelqu'un de très sympa là, qui s'occupe de la collection, là, de Jimmy Vandenhout. Alors j'ai dit, là, je suis désolé, mais bon, là, je vais annuler le contrat, je peux pas, j'ai rien. Alors du coup, lui, il est à Bruxelles, là-bas, en Belgique, il rigole, ah non, t'as signé, t'es obligé de faire. Et là, bon, le miracle, ça n'a pas été la secrétaire d'archevêché, c'est que j'ai fini par appeler Benoît Elie, avec qui j'avais fait Voyages d'Alix à Vienne. Il est archéologue spécialiste de tout ce qui est époque romaine, mais en Isère. Il pouvait m'aider sur Vienne, mais par exemple pas sur Luc Dunhomme, parce que c'était pas dans son secteur. Il est allé fouiller un petit peu dans la bibliothèque de Saint-Romain en Galles, et il m'a trouvé un gros bottin, la carte archéologique de Marseille, où il y a 400 pages de toutes les recherches archéologiques de Marseille depuis 100 ans. Donc c'est le genre de livre qu'on ne lit pas, parce que c'est des trucs très techniques. Et là, celui-là, j'ai tout lu. Alors il me l'avait donné presque neuf, parce que personne ne devait y toucher, en plus Marseille, à Saint-Romain-en-Galle. Je lui ai redonné, on aurait dit qu'il est resté dans le jardin pendant 3000 ans. Alors là, les gens à la bibliothèque disent « Ah, ce livre, il doit souvent sortir, parce qu'il était usé jusqu'à la corde, tellement j'ai lu, relu, pour rechercher un petit truc. Mm-hmm. » Des fois, vous avez un texte, je ne sais pas si c'est Pline ou Virgile, ou je sais pas quel auteur romain. Donc ce qui fait que, par exemple, au début du livre, il y a tous les textes romains qui traitent de Marseille, dans un petit passage. Donc ce qui fait que là, vous lisez, puis vous essayez de trouver un petit truc. Par exemple, il y en a un qui passait devant une allée couverte, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, là. Et puis au bout, il y avait une Athéna assise. Alors que Athéna, généralement, elle est debout. Et comme vous voyez dans le texte, ah oui, péristyle. Il y a la description d'un péristyle avec une Athéna assise devant lequel il passe. Bah, du coup, ça vous donne un élément pour faire un dessin. Alors, il y en a qui disent, mais on n'est pas sûr qu'il y avait une Athéna assise à Marseille. On n'est pas sûr, mais lui, il l'a écrit, il est romain, donc on va quand même le mettre. Donc voilà, ça me permettait d'avoir un petit dessin en plus à faire. Et puis quand vous reconstruisez des bâtiments, bon, ça existe, on peut trouver des documents, il y a les fondations au sol. C'est la fondation qui donne la forme du bâtiment. C'est pas le dessin de Beaucaire. On va mettre 10 maisons l'une derrière l'autre, faire les corons romains à Marseille.
Alors on peut dire que tout ce travail énorme, une fois l'ouvrage paru, ce travail étonne même les archéologues, parce que c'est vraiment une mise en situation de tout ce qu'on peut trouver. Enfin, ça peut être très étonnant pour eux aussi.
C'est ce que me disait Armand Débat, là, qui m'avait aidé là, pour le voyage d'Alix à Lyon. Lui, il était très heureux parce que c'est son but. Eux aussi, ils n'ont pas de budget. Ils ne peuvent pas se permettre de faire de la reconstitution. Alors comme là, il y avait cet album qui tombait par miracle de chez Casterman, du coup, il était content parce que justement, un archéologue, il est un petit peu frustré parce qu'il ne vit que dans des débris. Et lui, avec ses débris, il essaye de s'imaginer le bâtiment tel qu'il était autrefois. Donc par le dessin, on redonne vie à ces bâtiments-là en mettant en plus des personnages. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous vous projetez dans le passé.
Quel pouvoir !
Mais oui, pour ça, c'est à la fois une enquête et à travers le temps. Et par exemple, il y avait l'hôtel des Trois Gaules, je crois. Donc il y a très peu d'éléments, mais on a des petits indices pour essayer de faire quelque chose. Donc les rares éléments qu'on a, il y a une pièce, je pense une pièce de monnaie ou une médaille, où il y a l'hôtel qui est représenté avec deux colonnes. Donc c'est tout ce qui reste de l'hôtel des Trois Gaules, qui était un truc extraordinaire, sublime, où vous avez toutes les tribus gauloises qui venaient là une fois par an. Donc il y a cet hôtel avec deux colonnes. Et après, il y avait une des questions de l'archéologue, est-ce qu'il y avait deux colonnes ou quatre colonnes ? Parce que est-ce qu'il y avait que deux colonnes, parce qu'il n'y en a que deux qui sont représentées sur la médaille, ou est-ce qu'il y en a quatre ? Parce qu'elles sont l'une dans l'axe de l'autre. Et comme j'avais aussi un autre livre sur tout ce qui est reconstitution romaine du sud de la France, vers Vaison-la-Romaine ou une autre ville du coin, vous avez le même type d'hôtel où il y a quatre colonnes. Alors on se dit, bon, il y en a peut-être quatre. Et après, ces quatre colonnes, vous savez qu'elles existent parce qu'elles ont été coupées en deux et elles sont dans la crypte de l'abbaye d'Aynec. Le dernier indice aussi, c'est que dans le Rhône ou la Saône, ils avaient retrouvé une statue d'une victoire. Et cette victoire était surmontée la colonne. Donc ce qui fait que pour le dessin, on avait l'autel, les colonnes, les victoires. Et puis tout le reste, ça a tout été un travail de reconstitution, d'imagination d'Armand Desbas. Et lui, je crois que c'était son dessin préféré, parce qu'il disait, on va mettre ça là. On est les premiers à essayer de reconstituer ce lieu qui n'existe plus.
Alors juste pour avoir un ordre d'idée, combien de temps cela peut prendre, ce travail de recherche ? 6 mois, 1 an, plus ?
Si on le savait.
Justement, j'aimerais bien savoir.
Moi, je ne sais pas non plus.
Non.
Mais généralement, c'est plus long que ce qu'on pense. Si je faisais que ça jour et nuit, ça irait plus vite. Mais disons que c'est étalé sur 2 ans, à peu près. Luc Dunhomme, je crois, j'ai dû le faire sur 4-5 ans. Ce qui est bien au moins chez Casterman, c'est qu'il n'y avait pas de délai. Parce que, bon, après, ça allait un petit peu mieux. Mais pour faire le premier voyage d'Alix à Luc Dunhomme, moi, je n'avais pas jamais fait beaucoup de perspectives. Et puis, on vous dit, faire un album d'Alix. Un peu de pression, quoi. Alors, donc après, avec ma petite expérience de Luc Dunhomme, les après Marseille et Vienne, ça allait un peu mieux.
Alors, on le devine à vos propos, mais très concrètement, tu es au moment où vous effectuez ces recherches, sur le plan de la préparation de la BD, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des crayonnés, vous avez des croquis, vous prenez des notes, comment vous faites ?
Alors justement, c'est une chose que j'ai toujours proposé à l'éditeur ou à d'autres, publier un making-of avec toutes les recherches. Alors, j'ai pu le faire avec Lady Gear,
voilà, c'est ça.
Je me suis auto-édité moi-même, parce que ça n'intéresse personne. Et pour les voyages d'Alix, j'ai tout dans des cartons, parce que je voulais le faire. Sur Vienne, ça avait failli se faire avec l'office du tourisme, et puis ça ne s'est pas fait. Justement, je vais mettre toutes les explications, tous les croquis, les corrections de l'archéologue, voir une photo, par exemple à Vienne, une chose qui m'avait toujours motivé avant que je sache que je le ferai un jour en dessin, c'est le temple de Cybèle. Parce que donc Cybèle, il n'y a plus qu'un vague mur comme ça. Et comme on dit que c'était monumental, je voulais toujours savoir à quoi ça correspondait. Et comme il y avait la maquette de reconstitution de Vienne, donc il y avait Benoît Lee, il dit « Ah ben ça, c'est cet angle-là ». Après, j'ai pu... je repartais de la photo pour me mettre dans le même axe, il me semble. Je ne sais plus si c'est celle-ci. Et du coup, en se mettant dans le même axe que la photo, après, on aura pu mettre la photo de ce qui reste aujourd'hui et tel que c'était à l'époque. Et puis même maintenant, ils ont fait une reconstitution en 3D là, de Vienne, là, qui est pas mal aussi, quoi.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu, ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec désinvolture. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années, du meilleur et du pire. En jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-elles à présent, à présent, mes 20 ans?
Quelles sont selon vous les qualités d'un bon dessinateur? C'est quoi? C'est la spontanéité du trait, le sens des couleurs, les cadrages, le découpage, c'est tout ça à la fois?
Chacun a sa spécificité. Alors, par exemple, vous allez peut-être autant apprécier une bande dessinée Reiser que Jack Martin. Et Reiser, il n'a pas passé des heures à faire de la perspective. Ce ne sera pas son truc. J'ai peut-être une réponse quand même. C'est celui qui vous transmet une émotion. Si Reiser peut vous transmettre une émotion par un tout petit gribouillis, et puis un autre album très compliqué avec des colonnes doriques, peut-être aussi que ça vous donnera un frisson parce que vous avez l'impression de voir le fils de Spartacus débouler au coin d'un temple. Donc ce qui fait que des fois vous avez des gens très, très pointus en dessin, mais où le dessin est froid et qui ne vous touche pas, et quelqu'un qui a un dessin très malhabile mais qui va vous toucher. C'est comme un chanteur, des fois il y en a un qui chante mal mais il a un grain de voix qui va vous toucher, alors qu'un autre aura fait 10 ans de conservatoire de musique, dessinera à la perfection et il ne restera rien. Et entre guillemets, c'est ce qui s'appelle le talent. Il y a les talents et les besogneux, les talentueux. Des fois, les talentueux, ce n'est pas ceux qui trahissent le plus. Il y avait une petite histoire de Marcharif. Il jouait un film avec Ava Gardner. Ah, ça y est, oui. Bon, c'est bon. On va recommencer. Donc, il tournait un film avec Ava Gardner. Et il disait, le problème d'Ava Gardner, c'est qu'elle était un peu portée sur l'alcool. Alors, il y avait le metteur en scène. Il dit, écoute, elle t'aime bien, toi. Le soir, tu l'accompagnes. Et puis, au bout d'un moment, tu dis, bon, il est tard. Il faudrait peut-être aller se coucher plutôt que de faire le pilier de bar jusqu'à la fermeture. Alors, le Omar Sharif, il y allait. Il essayait de négocier et tout. Mais non, l'autre, non. Elle était collée comme une ventouse au bar. Et dit, le lendemain, il tournait le film, alors elle arrivait dans le cirage, elle ne savait plus où elle en était, elle vacillait un peu, elle ne savait pas son texte, donc il mettait Omar Sharif de dos qui lui soufflait son texte, elle ne comprenait rien, elle répétait le texte sans savoir ce qu'elle racontait, et Omar Sharif disait, c'est ça qui est injuste, parce que quand on la voyait au cinéma avec cette séquence, on n'en a rien à faire de son texte, elle le répétait sans rien comprendre, elle éclaboussait tout l'écran. Et puis il avait dit, j'ai connu des gens, des acteurs qui buvaient pas, qui fumaient pas, qui se couchaient à 8h le soir, qui savaient leur texte, leur machin, qui était impeccable, et eux, ils n'ont jamais décollé.
Ça s'appelle la grâce.
Oui, oui.
Alors, il y a ce grand travail d'artisan, et il y a la suite, c'est-à-dire l'édition, avec ses exigences commerciales. Alors, quand on regarde comment se répartit le prix de vente du livre, on s'aperçoit que l'auteur ne perçoit que 8%. Ce qui est dans le cas de la BD dramatique.
Vidéo, encore que 8% pour certains auteurs, c'est colossal. Parce que je crois que dans le milieu du livre, je ne sais même pas si c'est pas autour de 6. Et après, si c'est des petits éditeurs, c'est encore moins. Après, bon, il y a un prorata, c'est-à-dire que c'est 8% pour la bande dessinée, enfin pour ce qui me concerne. Parce que dans les contrats, vous avez 8% pour un album moyen. Et après, si vous avez plus de notoriété, des gros tirages, ça peut arriver à 12%. Parce que si vous vendez 100 000 exemplaires, bon, l'éditeur, il va quand même vous donner un petit peu plus, parce que même lui, de son côté, il gagnera encore plus. Et puis, s'il ne vous donne pas plus, il ira peut-être chez l'éditeur d'en face.
Ils aiment aussi beaucoup les séries, puis, parce qu'évidemment, une série, ça donne envie au lecteur de voir la suite.
Donc, oui, c'est ça.
Il y a plus d'argent aussi à retirer tout ça par rapport au one-shot. Est-ce que ça vous a posé problème dans votre carrière ou...
Oui, parce que moi, j'aime bien les one-shots pour justement changer l'atmosphère d'un album à l'autre. Et quand j'avais fait mon premier album, La Chapelle du Démon, à la fin, j'ai une avalanche qui ravage et tout, il n'y a plus rien. Et l'éditeur me dit, non, il faut faire une suite, là, prenez un héros. Mais je n'ai pas de héros dans mon histoire, le héros, c'est la montagne. Non, mais ça ne peut pas faire comme ça, on a un héros. Alors du coup, j'avais un bonhomme qui était secondaire. Du coup, j'ai dit, toi, tu seras héros. Alors, non, moi, je ne suis pas héros. Mais bon. Alors, du coup, mon bonhomme de la page 15, après, je l'ai mis dans chaque page pour qu'il fasse un peu héros. Puis après, j'ai essayé de le traîner dans un tome 2, malgré lui, pour qu'il fasse le héros. Et puis, quand l'album est sorti, Glenna m'a dit, on arrête votre série, ça marche pas du tout. Alors le problème aussi, c'est que moi, j'ai un peu de mal quand vous faites un premier album. Vous êtes à la page 30, vous essayez d'arriver à peu près jusqu'à la page 44, en pensant à la fin. Vous êtes à la page 30, il y a l'éditeur, il me dit, écrivez-moi un synopsis pour le tome 2. Alors vous n'avez aucune idée pour le tome 2, parce que vous essayez de finir le tome 1. Mais bon, comme c'est l'éditeur qui vous demande, alors vous êtes obligé de le faire. Alors. Du coup, dans le premier, il y avait peut-être 10, 15, 20 ans de ma vie. J'ai mis tout ce que je trouvais, pas grand-chose, mais pour faire un album. Mais pour le tome 2, j'étais complètement à sec, j'avais plus rien, j'ai dit tout ce que je pouvais dire. Alors j'avais fait une sorte de vague histoire entre ma page 30 et ma page 44, il fallait que je fasse le début. Alors, je vous avais pas fini un tome, il faut que vous pensiez au début du tome suivant. Alors, mes petits neurones là, un peu court-circuités. Alors j'ai essayé de faire un bout de scénario, donc l'album est paru. Et puis, alors c'est ça que j'ai pas compris, c'est le jour où l'album est sorti que l'éditeur m'a dit, j'étais déjà à 15 pages du tome 3, quand il me dit, c'est un bide, vous arrêtez tout.
Et pourtant, on peut dire que ça pourrait être plus confortable d'avoir une série. D'avoir une série.
Ah bah oui, bah tous les auteurs cherchent une série.
La question, on continue. Astérix, par exemple, ça a pas mal réussi.
Mm-hmm. Oui, mais enfin, vous avez toutes les séries qu'a fait Uderzo avant Astérix, il en a fait un paquet de séries qui n'ont pas abouti. Alors c'est sûr qu'une série, c'est une sorte de rente. Ça, c'est pour l'éditeur, l'auteur. Donc c'est à double tranchant parce que si ça marche bien, c'est bien une série comme ça. Mais des séries, elles s'essoufflent aussi au bout d'un moment et elles ne marchent plus. Ce qui fait que des fois, il y a un auteur et il a une image avec une série et sa série s'arrête et il n'a plus rien. Une chose, je ne sais pas si c'est un rapport avec la question, il y avait dessinateur de Christin. Christin, c'est le scénariste. Donc Mézières disait, j'ai des milliers de lecteurs, ça fait plaisir et tout. Bon, mais ça fait des années qu'il faisait sa série. Alors il s'est dit, pour tous mes fans, je vais faire un album qui me plaît. Il avait fait un album d'illustration, de dessin, de choses comme ça. C'est des choses d'argot, un gros éditeur, ils ont mis ça en vente. Le flop complet, rien de rien. Et Mézières, du coup, il a pris un petit coup au moral. Il dit, finalement, c'est pas moi que les gens aiment, c'est mon héros. Même moi, qui étais un fan de Tintin, puis la lecture du Temple du Soleil, encore lecture, c'est au CP, je savais pas encore lire. Enfin, à la fin du CP, je savais bien lire, mais avant, quand je l'ai eu, comme c'était Noël, on n'avait que 3 mois. Enfin bref, j'ai jamais acheté Josette et Joko. J'aurais pu en lire un, en acheter un pour voir. Ni Quick et Fluke, non ? Alors que c'est le même auteur. Mais j'ai même pas eu la curiosité de le lire. C'était pas Tintin, m'intéresse pas.
Alors vous avez démarré officiellement dans le métier en 1981. On peut imaginer que depuis aussi longtemps, la technique de création d'une bande dessinée a passablement évolué avec l'arrivée de l'informatique et puis alors Photoshop aussi.
Mais là, c'est plus au niveau dessin que scénario, alors.
Oui, tout à fait. Est-ce que vous sentez l'importance?
Vous voyez, oui, les albums, c'est plus la même chose. C'est comme au cinéma. Hein. Vous voyez un film de Buster Keaton où c'est lui qui saute du train. Maintenant, tous les films avec les fonds verts, ils sautent du train, mais le train, il n'y a pas de train, quoi. Alors, Buster Keaton, il y a vraiment un train, là. J'avais vu l'autre fois le mécano de la Générale, là. Ouais. Je ne connaissais pas ce film, comme il était moderne. Ça m'a épaté, quoi. Voilà, donc c'est vrai que ça change tout. Alors, ce qui me gêne des fois, c'est quand je vois un truc qui peut être beau, je dis, est-ce que le dessinateur l'a dessiné ou il a pompé une photo? C'est ça, quoi. Parce que après, vous prenez une photo, vous mettez 2-3 coups de Photoshop dessus, ça fait style dessin, quoi. J'ai même l'autre fois mon fils, je ne savais même pas que ça existait, sur son téléphone, il a un logiciel, il prend la photo de la maison d'en face, il me fait voir la photo, toute la maison est au trait, comme si elle était dessinée. Alors, une fois aussi, ils avaient fait un stand là, de plusieurs auteurs de Casterman, des Voyages d'Alix. À côté de moi, il y avait un jeune dessinateur qui avait fait un album sur une autre région, comme ça, là, un bel album, là. Donc, il dit, c'est la première fois que je lui ai dédicacé. passer. Et il y a une personne qui vient et dit « Vous pouvez me dessiner Alix ?» Et il me regarde, « Je ne sais pas dessiner. » Enfin, je lui dis « C'est bizarre. » Il a un album chez Casterman, il me dit « Je ne sais pas dessiner. » Donc il faisait des sortes de bonhommes comme ça. Et en fait, lui, il savait très bien manier tout ce qui était informatique pour les bâtiments, la perspective. Et en plus, ce qui est un peu frustrant, c'est que l'éditeur, il aime mieux son album à lui que le vôtre vous avez dessiné à la main, parce que le sien, il est parfait. Les ellipses, les gradins. Et par contre, comme il y avait quelques personnages dans l'album, c'est quelqu'un d'autre qui a fait les personnages, et puis après, avec l'informatique, ils incrustaient un bonhomme qui marche comme ça, là. Alors des fois, ça fait des bonhommes qui marchent bizarrement, parce qu'ils ont été pas, ils ont pas été faits sur le dessin lui-même. Puis il y en a un autre aussi, j'ai vu, je sais plus quel album, bon, moi, je m'étais cassé la tête à dessiner les mosaïques. Mosaïque en perspective, comme ça, à la fin, vous êtes à moitié aveugle parce que vous voyez des pattes de mouche. Et en plus, l'éditeur, il vous fait une toute petite image d'un truc, vous êtes resté une semaine dessus. Et ben, il y en avait un autre, du coup, avec Photoshop, il a pris la photo de la vraie mosaïque et il l'a glissée sous les pieds d'Alix en perspective, et pof, voilà, en 3 secondes de dessin effet. Alors après, bon, question de goût, mais bon, peut-être que vous êtes content parce que vous avez la vraie mosaïque. Alors c'est marrant par rapport à, heureusement que Jacques Martin n'est plus là, parce que là, il viendrait fou. Des fois, bon, je faisais des dessins de reconstitution, puis des fois, vous avez une maquette. Alors la maquette, ben, tiens, super, j'ai une maquette, je fais une photo, puis je décalque la maquette. Alors surtout, l'éditeur dit, ne décalque pas la maquette, parce que si jamais Jacques Martin s'en aperçoit, lui, il veut du dessin de création, avec les lignes de fuite, les points de fuite, les perspectives. Alors j'ai le pauvre, s'il voyait l'autre qui a scanné une mosaïque pour la mettre sous les pieds du dessinateur.
Et par rapport à ça, alors comment vous voyez l'évolution de ce métier? Est-ce qu'il y a encore des gens dans le futur qui vont apprendre à dessiner ou...
À Lyon, là, il y a l'école Émile Cole, là. Donc, c'est la même. Je vais au cours du soir pour Photoshop maintenant. Mais bon, ils leur apprennent les bases du dessin, là. Ben oui, parce que l'ordinateur, lui, il faut bien lui donner à manger aussi, quoi. Vous n'allez pas dire l'ordinateur. Alors, c'est sûr que vous pouvez faire du roman photo en prenant des photos de. Ah, je prends des photos de Daniel Zirotti qui va au marché, ainsi de suite. Après, la photo, je la mets dans l'ordinateur. Et décale la photo pour la mettre sur l'autre profil parce qu'elle va parler à la personne qui est à droite. Et puis après, je vais mettre des couleurs dessus. Et puis, on pourra en faire une bande dessinée très réaliste, qui sera bien. Et le problème, c'est que vous ne savez plus, des fois, si ça a été fait à la main ou pas. Là, l'autre fois, j'avais un album sur Catherine Médicis. Donc, derrière, des fois, il y a des grands décors d'une cheminée du XVIe siècle avec toutes les moulures. Alors, on se dit, est-ce qu'il l'a dessiné ou je ne sais pas. Alors après, on en revient peut-être à ce que je disais avant. Est-ce qu'il y a une émotion ou pas? Mais bon, il y en a qui aiment parce que c'est très beau. L'autre fois, il y avait aussi un bel album là, que j'avais acheté sur la construction de Notre-Dame de Paris. Quoi. Et à un moment, il a fait Notre-Dame de Paris avec tous les vitraux. Bon, là, à la limite, je trouve que ça passe parce qu'en dessin, c'est impossible à faire. Tellement petit. Et là, c'était fait d'une manière cohérente où ça s'incrustait dans le dessin et il y avait tout un tas de détails de mosaïques et de couleurs qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Quoi. Donc là, ça apporte un plus et qui n'est pas une tricherie en plus. Donc c'est juste une partie du dessin parce qu'on ne peut pas faire autrement. Everybody
êtes un homme complet, parce que certains sont seulement dessinateurs, d'autres sont scénaristes, et pour faire un album, les deux se rencontrent, vous faites tout. Et on peut même dire qu'à un certain moment, on vous a aussi préféré, entre guillemets, en tant que scénariste plutôt que dessinateur. Je parle de votre collaboration avec le magazine Spirou, et puis aussi pour Mickey.
Mickey, non, je faisais tout, là.
Tout, d'accord. Mais pour Spirou...
Pour Spirou, alors... Un jour, il me téléphone, parce que j'envoyais des courriers, et il me disait, écoutez, M. Bouchard, vous nous intriguez, parce qu'on ne vous prend jamais rien, mais vous continuez de nous envoyer toujours des scénarios, on en a un sac entier, là, sur notre étagère, alors vous nous intriguez, alors, ce qu'on fait, on vous envoie un billet de train, et vous venez nous voir à Charleroi, et apportez tout ce que vous avez fait. Je suis parti avec 3 sacs à dos, des valises à roulettes. Donc je passais une journée là-bas, rien que pour moi. Il y avait le rédacteur en chef, il mangeait, machin. Ils m'ont donné un gros livre de l'histoire du journal de Spirou. Et donc ce qu'il m'avait dit, en fait, dans vos histoires, enfin humoristiques, hein, là, on ne parle pas des voyages d'Alix ou autre chose comme ça, apparemment vous avez des idées. Alors moi, ça fait toute ma vie que je cherchais un scénariste, et il me dit, vous êtes scénariste, mais je ne suis pas scénariste. Voilà. Et il dit, et parce que notre problème, c'est qu'on a... plein de gens qui font de la bande dessinée, des dessinateurs, il y en a une file entière dans la rue, mais des scénaristes, pour avoir des idées, on les compte sur les doigts d'une main. Alors ce qu'on veut, c'est si vous avez des idées, vous nous les envoyez, mais vous les dessinerez jamais pour pas les gaspiller. C'est pour les donner à ceux qui sont en manque. Donc, de fil en aiguille, j'ai eu près de 130 pages, comme ça. Alors ce qui était sympa, c'est que du coup, je faisais moitié-moitié, c'est-à-dire moitié scénario pour des jeunes auteurs, s'ils me disaient de faire des histoires de 1 à 5 pages. Puis moitié, ils me demandaient s'il y avait des auteurs qui m'intéressaient. Alors du coup, des fois, j'avais mes scénarios, j'avais pu en faire, alors, je sais pas si ça vous dit encore quelque chose, des auteurs comme Will, là, qui dessinait Tiff et Tondu. C'était un des derniers, de l'époque, des dessinateurs qui faisaient des belles histoires de Noël, comme ça. Donc, une fois, j'avais une histoire de Noël qui avait été dessinée par Will, j'étais content. Là. Alors, ça avait été aussi un peu gaguesque, là. J'avais fait une histoire de 5 pages, et l'éditeur me lui a enlevé les 2 dernières pages. Ça rallonge, bon. Du coup, ça avait, il n'y en avait plus que 3, alors. Comme on est payé à la page, bon. D'un autre côté, il avait raison, c'était plus efficace, ces 3 pages. Alors... J'avais demandé à ce que ce soit Will là, qui fasse ses pages. Je ne sais plus comment ça s'était passé. Enfin, dans le premier temps, je laisse mes pages, comme d'habitude, et ceux qui trouvent un auteur. Et puis le temps passe, et puis là, Noël approchait. J'ai toujours pas de réponse. Alors du coup, j'ai, bon, comme j'ai les coordonnées de Will, pour une fois, je vais essayer de me motiver. Là. Du coup, je lui ai envoyé, comme ça. Et lui, il reçoit mes pages. « Oh, j'aime bien votre histoire, je vais la dessiner. Oh, » il est content. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il ne me répondait pas à Spirou, mais entre-temps, ils avaient contacté un autre dessinateur pour faire les 3 pages. Alors, ce qui fait qu'à peu près en même temps, les 2 dessinateurs arrivent avec la même histoire.
Intéressant aussi.
Mais il s'est fait disputer par le rédacteur en chef. « Mais tu vois, tu prends l'initiative, maintenant ça nous met dans le bazar, qu'est-ce qu'on va faire et tout, on a 2 qui ont la même histoire. » Ce qui est encore plus intéressant, c'est que les 2 dessinateurs... ont apporté l'histoire de 3 pages qui ne se voyaient jamais, parce qu'il y en a un qui habitait à Bruxelles et l'autre qui était en Espagne, c'était le père et le fils. Donc c'est le fils de Will, Eric Maltette, qui avait dessiné l'autre. Alors du coup, il se retrouve avec son père avec la même histoire. Du coup, il était content. Il dit « Ah, comment t'as fait là, 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 là. » Et puis, moralité, bah, du coup, dans le numéro de Noël, ils ont mis les 2 histoires.
Super.
Et ce qui m'a valu une remarque un peu désobligeante d'un lecteur, un peu surprenante, c'est que du coup, comme ils avaient 2 histoires faites par 2 auteurs différentes, il y en a un qui a dit « Oui, on voit que le scénariste, il cadenasse ses auteurs, il leur impose les cadrages et tout ça, parce qu'ils avaient le même cadrage tous les deux. » Parce que c'est marrant que Will, qui avait, bonhomme qui avait, je sais pas, une carrière colossale derrière lui, il a suivi à la lettre mes indications. C'est pas dit « Je suis un tel, il y connaît rien, je vais mettre ça à la place, je vais mettre ça, ça sera mieux. » Et tu sais, il suivait au cordeau ce que j'avais mis. Et son fils, un peu pareil. Il y a des lecteurs qui disent « Putain, le scénariste, comme il les coince, les auteurs, ils ont aucune liberté d'expression. » Il y en a qui disaient... parce qu'ils pensent que le dessinateur, c'est l'artiste. Le scénariste, il donne une vague idée, puis c'est l'autre qui crée.
Alors, vous avez aussi fait une BD pédagogique. Pourquoi et comment avez-vous l'idée, le besoin de faire cette BD, très bien faite d'ailleurs ?
C'est suite aux interventions que j'ai dans les classes, j'avais mis par écrit un petit peu ce que je faisais. C'est une genèse qui est très très longue, ça, parce qu'une fois... Oui, c'est comme ça que ça a dû démarrer, c'est que j'avais fait des interventions étalées sur 1 année à Villefranche-sur-Saône. J'avais fait une grosse opération, donc on était 5. Alors moi, c'était bande dessinée, un autre, c'était sérigraphie. Et les autres, ils avaient tous des avantages à la fin de l'année scolaire. Du coup, bah, moi, j'avais rien. Alors, la personne qui avait réuni les financements, j'ai dit, bah, je sais pas, parce que les autres, ils ont tous quelque chose, des affiches, des trucs. Et vous, pourriez, bah, j'ai dit, bah, on pourrait peut-être mettre des exercices comme ça, par écrit. Et du coup, on avait fait un tirage à 500 exemplaires d'une première mouture d'une trentaine de pages. Après, j'ai trouvé un autre éditeur à Marseille qui s'appelait BDSup. Il a trouvé ça bien, il en a refait 500 aussi. T'es arrivé à les vendre. Puis les années ont passé. Puis un jour, je le fais voir à Position BDSup n'existait plus. Villefranche-sur-Saône, c'était un office municipal. Alors j'en avais reparlé à Jacques Glénat une fois que je le voyais, parce qu'il me demandait qu'est-ce que j'avais à proposer. J'ai dit, bah, j'ai ça aussi. Et dans le temps, ils avaient eu un gros succès chez Glénat. Ça s'appelait Par l'art de la BD, ou je sais plus, quelque chose comme ça, en deux gros tomes. Des dessins réalistes de Tardy, Bilal et ainsi de suite. Et il m'a dit, oh ben c'est marrant votre sujet, ben, ça va faire un art de la BD junior pour les jeunes. Alors après il me dit, mais est-ce qu'il y a, doublez-moi le nombre de pages. Et après, du coup, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire un exercice par rapport à la leçon, comme ça, ça me doublait mon nombre de pages. Le but aussi, c'est que quand j'allais dans des classes primaires, il y avait des enseignants qui étaient contents de ce qu'on faisait, et souvent, ils disaient, c'est bête, parce que quand vous êtes plus là, je peux plus dessiner. Alors, je disais que c'est pas le fait de savoir dessiner, il faut faire des ronds et des carrés. Donc, je me dis, c'était un ouvrage qui était plus pour l'enseignant que pour l'élève. Comme ça, l'enseignant, il avait sa leçon, et puis à gauche, l'exercice, pour en faire une photocopie, et puis comme ça, il n'avait pas besoin de dessiner. Il dit, ben voilà, remplissez-moi les têtes, faites-moi un costume. Et puis du coup, ben, ouais, là, ça, il en a réimprimé là, une troisième fois. Le premier, c'était 8000, peut-être après, peut-être à 15, peut-être 15-20 000, je ne sais pas, à force. Ceux-là, ils ont refait sous un autre format. L'avantage de l'autre format, c'est que du coup, ils pouvaient de nouveau profiter des offices. Parce qu'un album, bon, on n'en a pas parlé, mais un libraire peut leur faire un retour dans les 12 premiers mois. Vous êtes libraire, dites tiens, je vais prendre 50 exemplaires du dernier Bilal, et si vous en vendez qu'un, vous rendez les 49. Tandis que si au bout d'un an et un jour, vous en prenez 50 et vous en vendez qu'un, eh ben, c'est le libraire qui paye les 50. Donc il est nettement moins motivé. Ce qui fait que c'est pour ça qu'au bout d'un an, il y a beaucoup de titres qu'on ne voit plus en librairie. Et c'est pas qu'ils sont épuisés ou pas, c'est que le libraire, il met au compte-goutte parce qu'il a peur après de ne pas le vendre, que ça lui fasse du stock, des frais. D'où le problème de l'auteur aussi, c'est que c'est-à-dire qu'au bout d'un an, ben, vos albums, ils sont plus en circulation, donc vous les vendez plus et donc vous n'avez plus de revenus.
Vous avez été à l'origine, dans les années 90-2000, d'un salon de la BD à La Verpillière, que vous avez animé pendant 8 ans. Chaque année, vous invitiez 30 auteurs et vous aviez une recette pour le faire, un tiers d'auteurs jeunes, un tiers d'auteurs connus et puis un tiers d'anciens.
Oui, et du coup, quand vous dites auteurs anciens, on pourrait dire de manière plus spécifique les auteurs qui étaient dans mon recueil Tintin que j'avais eu au CP. Et du coup, bon, l'avantage d'un salon, enfin, l'inconvénient, c'est que ça vous crée beaucoup, beaucoup de problèmes, de soucis. Mais un des rares avantages qu'il y a, c'est que ça vous donne un prétexte pour contacter des gens, parce que vous n'allez pas contacter un chanteur, un acteur, un joueur de foot du Real de Madrid, comme ça, en disant bonjour, comment ça va. Mais là, vous avez un argument, parce que vous habitez. Du coup, comme j'avais pu avoir un listing de toutes les adresses des auteurs du Lombard, qui étaient principalement donc dans ce recueil Tintin, du coup, je les contactais, je téléphonais, ça me faisait bizarre. Alors une fois, j'avais un auteur aussi que j'aimais bien quand j'étais petit, alors je l'appelle là-bas en Belgique. Alors j'y voulais pas venir au salon en plus de la Verpillière. C'est pas très bling-bling comme nom. Vous diriez Bastia ou je sais pas, La Rochelle. Et du coup, il me répond, mais enfin, est-ce que vous savez quel âge j'ai ? Dis-moi, à mon âge, je sors plus de chez moi. J'ai dit, mais ça me ferait plaisir. Il y en avait un autre aussi. Enfin, lui, il est d'une génération plus jeune. Il faisait pas partie de mon recueil Tintin. Là. Du coup, je l'appelle, savoir s'il voulait venir là, dans le salon. J'aimais bien ses dessins. Quoi. Un style jeunesse, très gai. Sauf que lui, il est moins gai. Là. Alors, du coup, je l'appelle. Et ça vous intéresserait de venir à mon petit salon, là, à la Verpillière ? C'est quand ? Mois de mars ? Mois de mars, je serais peut-être mort d'ici là. Ouais, écoutez, non, je serais mort.
Est-ce que c'est votre pratique de la création de scénarii qui vous a conduit à vous orienter vers le théâtre, l'écriture de textes ou tout simplement l'envie de découvrir autre chose?
Il y a des petits trucs dans les gènes, parce que je me rappelle quand j'étais en 5e, je faisais Laurel et Hardy. Enfin, que j'osais pas. Ça a été mon premier spectacle sans le faire exprès. Il y avait une fille qui faisait Hardy, moi je faisais un peu Laurel. Genre, oh, c'est toi Hardy? Alors on faisait ça entre nous, là, puis un coup, pareil, en fin d'année, c'était en 5e. Puis moi, c'est pareil, j'étais timide, j'osais rien faire. Là, quand il y a du public. Comme il y avait un surveillant qui devait savoir qu'on faisait notre petit truc, là, et d'un coup, il nous appelle pour savoir si on voulait pas faire une représentation. Moi, j'ose pas dire non. Alors, je vais faire mon truc là-bas, et du coup, on rentre dans la salle de surveillance d'habitude. Une centaine de personnes, tous assis comme ça, qui attendent. Ah oui, après, en 81, avec deux copains aussi, on est allé à Osgore, on arrive, on a une banderole, festival du jazz et du rire, amateur s'inscrire. J'ai dit, bah, tiens, je vais m'inscrire, comme ça, si j'y vais, ça nous fera une entrée gratuite. Alors je me suis retrouvé passé entre Bill Coleman et Popek. Heureusement que c'était au début, parce qu'il y avait un type qui n'était pas venu au début, il dit, venez vite le remplacer. J'ai dit, heureusement, je ne me suis pas rendu compte, parce que c'était un truc qui durait 5-6 heures. J'aurais vu tous les autres passer avant, j'y serais pas allé. Ouais.
Vous avez fait partie de plusieurs troupes de théâtre, notamment à Saint-Priest dans la compagnie L'Entracte, à Saint-Quentin-Fallavier dans la compagnie Yvon Chex. Vous avez suivi les cours de Michel Leroyer pour lequel vous avez écrit une pièce et un rôle. Vous avez écrit aussi une pièce Gilbert et Adrienne ou La correspondance des deux mondes, s'appuyant sur un échange de lettres entre Gilbert de Lafayette et sa femme Adrienne, pièce représentée pour la première fois à Vienne en 2014.
Il faut partir des voyages d'Alix à Luc Dunhomme pour arriver à Lafayette à Vienne. Du coup, je reçois un petit carton. Il y a une petite association d'auteurs lyonnais à Lyon, la Célire. Ils remettent leur prix chaque année. Puis là, ils m'avaient mis, c'est moi qui avais un prix pour les voyages d'Alix à Luc Dunhomme. Et sur le carton, je vois prix remis par Michel Leroyer. J'ai Dame Ned, l'idole de ma jeunesse, là, qui se battait à l'épée partout, là, dans les Chevaliers de Maison Rouge ou Corsaire et Flibustier. Voilà, du coup, je le vois, là, papote un peu. Et puis, du coup, il dit qu'il, tous les vendredis, il donne un cours de théâtre à Lyon. Alors, comme Yvon Chex aussi, il avait dit avant, tous les deux ans, changer de cours pour pas tomber dans une routine et savoir ce qui plaît au metteur en scène. Puis chacun a sa méthode, c'est intéressant. Alors, comme ça faisait deux ans que j'étais avec Yvon Chex, puis en plus Yvon avait arrêté, malheureusement, il faisait des cours extraordinaires. Bah, du coup, après, je suis allé deux ans au cours de Michel Leroyer, et puis là, j'ai vu l'idée du siècle que j'attendais depuis toujours. Les foules entières vont se ruer dessus pour m'embrasser, pour avoir eu cette idée extraordinaire. En fait, j'ai dit mon idée, mais ça n'intéressait personne. Parce qu'en fait, Michel Leroyer avait interprété Lafayette en 62 quand Lafayette avait 20 ans en 1777. Alors, il faut suivre. Bon, moi, j'ai mon truc par cœur. J'arrive à... Donc, voilà. 20 ans. Lafayette, 20 ans en 62. Et moi, j'avais vu en faisant mes histoires d'Isère et de Lyon que Lafayette était passé dans la région en 1829. Et c'est un peu le prémisse de la révolution de 1830. Alors, je vous disais, 1777-1829, c'est 52 ans. Et 1962 plus 52, 2014. J'ai dit, putain, on pourrait faire le téléfilm avec le même le Royer dans le même Lafayette en temps réel. Du coup, j'en parle, et puis ouf, mais vous rêvez, mon ami, vous rêvez. Il dit, on fait pas du cinéma comme ça, c'est à Paris, c'est compliqué, ça coûte cher. Bon. Écrivez-moi plutôt une pièce de théâtre sur Lafayette. Lisez le livre d'André Mauroy, et puis vous me faites un texte sur un échange de correspondance entre Lafayette et sa femme. J'ai jamais écrit de théâtre, là, et donc c'est ceux qui vous commandent ça, c'est Michel Leroyer, ancien sociétaire de la Comédie Française. J'ai stressé un peu, là. Et puis après, c'est comme les voyages d'Alix à Marseille, quand vous cherchez la documentation, vous voyez qu'il n'y a rien. Mmh. Sur le livre d'André Mauroy, alors moi qui ai du mal à lire, et c'est un livre de 500 pages, ça s'est lu tout seul, tellement c'est bien écrit. Hein. Là, on voit aussi le talent de l'écrivain. Et quand vous lisez un livre, alors que vous dites « j'aime pas lire », c'est qu'il y a quelque chose. Donc André Mauroy avait écrit ce livre, parce que dans les années 50, ils ont retrouvé toute la correspondance de Lafayette dans un grenier, dans une malle. Puis comme c'est un grenier très sec, le papier n'avait pas bougé. Donc à partir de ça, il avait écrit toutes les mémoires d'Adrienne. Mais le problème, c'est qu'on avait que
la correspondance.
Que la correspondance de lui, mais pas d'elle.
Ah. Oui.
Parce qu'elle, elle recevait le courrier au château, donc elle empilait ses petits courriers avec un petit ruban autour, là, comme font les petites jeunes filles. Et tandis que lui devait recevoir son courrier un coup en Amérique, un coup en Prusse, un coup à cheval, un coup en bateau. Et donc pour faire un échange de correspondance, c'était un peu ardu. Donc à partir de là, j'ai bricolé un peu pour faire une histoire. Là.
Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a été joué?
Oui, alors du coup, après, j'en parle à Michel Leroyer, quoi, mais bon, ça ne le branchait pas trop, parce que comme lui, c'est un acteur professionnel, il aurait fallu que je trouve des salles, des théâtres, des tournées. Du coup, après, je l'ai joué moi. Alors après, je m'en voulais d'avoir écrit des trucs aussi longs, parce que je mettais des lettres entières qui disaient, je m'en fiche, c'est pas moi qui vais le dire. Après, pour les apprendre, ça, je me suis maudit, mais après, bon. Finalement, c'est sympa, ça nous oblige à essayer de se dépasser, parce que si des fois on avait conscience de ce qu'on va faire, on ne le ferait pas. On est quand même au pied du mur.
Vous êtes passé à l'image avec un court-métrage de 26 codes, qui date de 2012, qui a été tourné à partir d'une idée que vous aviez eue pour le journal de Spirou.
Oui. Dans le cadre des scénarios que je leur envoyais, et puis celui-là, bon, ça leur avait pas plu, pourtant moi il me plaisait bien. Et en plus, ça faisait un peu une parodie de d'Avicii. Le problème, qu'on peut toujours tout expliquer par des chiffres, des numéros, des trucs, il y a toujours des correspondances. Et du coup, ce que j'ai trouvé, c'est tellement bizarre que je me demande si en fait c'est pas une révélation. Je me suis rendu compte que tous les auteurs de bande dessinée avaient 6 lettres dans leur nom, tous les grands auteurs. Alors à la fin, j'ai arrêté, j'en étais à 120, 130 auteurs. Alors c'est pour ça que je les ai mis au générique. Alors des fois. Il y en avait un qui avait fait le montage, il dit oh ben, je ne vais pas mettre tous ces noms dans le générique, c'est trop long. J'ai dit mais c'est la chute de mon histoire. Voilà. Puis il y a peut-être des gens qui ne regardent pas le générique aussi, donc ils n'auront pas compris. C'est vrai parce que j'avais vu que Spirou, Tintin, Glénat, Circus, Mickey, Donald, ils ont tous 6 lettres plutôt, Popeye.
Et cette expérience-là, c'est quelque chose que vous avez souhaité renouveler ? Ouais, tourner dans un court-métrage.
Voilà, c'est sympa, oui. Bah, disons que c'est parti un coup du fait que je m'étais retrouvé figurant dans un film de France 3. Là. Une fois, je m'étais inscrit dans la liste figuration à France 3, puis j'ai jamais eu de nouvelles, alors j'avais laissé tomber cette idée. Puis 4-5 ans après, il m'appelle pour faire la maîtresse du président, là. Donc en plus c'est en costume, en 1900, alors là c'est classe, là. Il fallait être au palais de justice.
Dans quel rôle ? Le rôle de la maîtresse ? Non, le
rôle de figurant. Et du coup je me suis trouvé à côté de Christina Reali. Et alors comme j'étais rentré le premier dans la salle, du coup j'étais à côté du box, j'ai dit bah, tiens on va peut-être me voir, alors du coup il y a des gens qui m'ont vu une seconde.
Alors retour à la bande dessinée, votre dernier album, le 37e. Ce diable de Lesdiguières a connu avant parution des vicissitudes puisque vous avez perdu les planches que votre éditeur attendait et qui représentaient quand même 2 ans de travail.
Oui, bah, c'est un coup du diable. Ah, le diable et moi, on a un long combat. Mais c'est moi qui ai gagné à la fin parce que j'ai pu quand même le sortir, mon album.
Alors, on va peut-être parler du personnage central. C'était un chef de guerre, hors pair.
Oui. Déjà, il a une particularité, c'est qu'il est mort à 83 ans. Bon, à 83 ans de nos jours, c'est déjà pas fréquent, mais là, à cette époque-là, pour un chef de guerre, en plus... Mais il faut dire qu'il avait pour lui quelque chose d'assez original, c'est qu'il n'avait aucune honte à détaler s'il voyait que la partie était perdue d'avance. Parce que des fois, il y en a d'autres, c'est des grands seigneurs, l'honneur, machin, je vais mourir face aux adversaires. Lui dit, c'était dans sa devise, il y avait défense de sanglier, fuite du loup, on s'en fiche, on s'enfuit, on reviendra bien plus tard. Et puis comme il n'avait peut-être pas beaucoup d'hommes aussi, donc la vie de ces hommes avait beaucoup d'importance par rapport à certains qui n'en ont rien à faire. C'est quand même comme une certaine qualité.
Donc vous racontez ses aventures dans cette BD.
Voilà, le but c'était de faire un petit peu une biographie de Lesdiguières, mais Jacques Glénat, l'éditeur, m'avait dit ne faites pas un album comme d'habitude, histoire de Lyon, histoire de l'Isère, avec en février 1400, machin, il a fait ci. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté cette histoire du diable qui me conseille.
Quels sont vos projets ?
Bah, disons que Glénat va me réimprimer, celui qui a demandé à faire un petit livre sur les routes de Grenoble. On l'avait fait il y a une dizaine d'années, et puis il m'a demandé de rajouter une vingtaine de pages, et puis ça devait sortir en début d'année, puis finalement j'ai vu que ça sortait en septembre.
Bien,
Gilbert Mouchard, merci.
Merci, de rien. À la prochaine.
Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin.